Alors, est-ce que le micro prend le son? Ça va comme ça? Alors, comme l'a dit Jean-Luc, on est en train de parcourir l'évangile selon Jean depuis quelques semaines et on va aller jusqu'à Jean chapitre 11 d'ici le mois de mai. Et puis après, on va prendre une pause et à la rentrée, on va rattaquer avec la deuxième moitié de l'évangile. Vous verrez pourquoi on s'arrête au chapitre 11. Il y a une coupure très naturelle. Mais si vous n'avez jamais lu l'évangile selon Jean, on vous encourage vraiment à prendre un de ces évangiles.net qui se trouve à la sortie sur votre droite. Prenez-le, c'est cadeau de l'Église, et lisez l'évangile en parallèle à la série. Vous pouvez le lire tout en entier, hein, il ne faut pas attendre le message suivant pour avancer, mais lisez tout pour essayer de découvrir Jésus tel qu'il se présente à nous. Tu vas aller voir maman, demande maman de t'aider. On essaie de découvrir qui est le vrai Jésus, pas le Jésus dont on m'a parlé à une époque, pas le Jésus que j'ai en tête, mais qui est le Jésus qui se présente dans les évangiles. Et donc prenez-en un, c'est cadeau, c'est même pas votre cadeau de Noël, il y en aura d'autres. Alors, on est dans le chapitre 2 de Jean. J'ai oublié de vous donner vos pages. Dans la Bible blanche, c'est la page 688. On va lire ensemble. Donc, page 688, c'est Jean 2, à partir du verset 13. Alors, rappelez-vous, le texte juste avant, c'est le fameux mariage de Cana où Jésus montre qu'il veut nous apporter un bonheur bien supérieur à tout ce qu'on pouvait vivre jusqu'à là. C'est surprenant comme premier miracle de transformer de l'eau en vin, alors qu'il aurait tellement de puissance pour faire autre chose, il fait quelque chose qui semble superflu. Et ici, maintenant, on arrive toujours dans une opposition du religieux et ce que Jésus propose. Jean 2, verset 13. La Pâque juive était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors, il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit ça, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on leur enseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Autant le texte du dimanche dernier pouvait rassurer quelqu'un qui connaît rien sur Jésus. On ne peut pas être contre quelqu'un qui amène la vie dans toute une fête. On ne peut pas être contre quelqu'un qui est le plus joyeux d'une soirée. On ne peut pas être contre quelqu'un qui veut le bonheur. Mais le texte de ce matin nous montre une autre facette de Jésus. Et je vous inviterai à prendre les deux facettes de Jésus. Elles sont là en parallèle, de façon intentionnelle. Jésus est l'humain le plus complet, le plus parfait. Et donc, il va à la fois être le plus joyeux, et face à ce qu'il voit dans ce monde, c'est celui qui va éprouver le plus de colère, le plus de fureur. Le plus joyeux et le plus en colère. Voilà Jésus. Donc, on est dans ce passage, et ce qui aide peut-être, c'est de réaliser au mariage de Cana, C'était quelque chose de magnifique qui avait lieu. On a Jésus, le créateur de l'être humain. On l'a lu dans Jean 1, les premiers versets. Toute chose qui a été créée par Jésus. Il est dans une fête avec ses créatures. Imaginez un artiste qui est dans un musée avec tous ses chefs-d'œuvre. Ici, il est en présence de sa création et il leur apporte la joie. La présence de Jésus leur apporte le bonheur. Mais, versets 13, 14 et 15 de notre passage, on voit que la présence de Jésus pose aussi des problèmes pour certains. Et donc, regardons les problèmes que ça pose avant de regarder comment la présence de Jésus est quand même la seule solution pour être heureux. Donc le zèle de Jésus, la présence de Jésus est un problème pour certains. Regardez, on lit les premiers versets encore une fois, on est à la Pâque des Juifs. La Pâque des Juifs était proche. C'est le Noël juif, si vous voulez, en termes de commerce. On avait des centaines de milliers, un historien parle de plusieurs millions de Juifs qui se rassemblaient à Jérusalem, de toute la Méditerranée, pour cette fête. Il y avait des dizaines, voire des centaines de milliers de bêtes qui seraient sacrifiées durant la semaine de la Pâque. Donc, pour nous, c'est un peu gore. On ne sait pas comment ils faisaient, d'égorger autant de bêtes. Mais n'empêche, c'était le moment important à Jérusalem. Jésus arrive. Il trouve à établir dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs. Donc, Jésus est un problème déjà pour les marchands. Parce qu'ils se sont installés dans la cour du temple. On ne sait pas s'ils étaient 10, mais s'il y avait des centaines de milliers de pèlerins à Jérusalem, on peut plutôt estimer qu'ils avaient rempli la cour de leur marché. Et Jésus les vire. Et vous voyez comment il le fait. C'est pas « s'il vous plaît, partez, Dieu va être en colère ». Il les vire. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic ou de commerce. » Jésus, on ne sait pas pourquoi, arrive à le faire. Jésus vide le temple. Et pour certains qui connaissent un peu les évangiles, dans tous les autres évangiles, cette histoire est racontée une histoire similaire est racontée à la fin de la vie de Jésus. Et donc, il y a plusieurs possibilités, mais très probablement, cette histoire est assez différente. Et Jésus a vidé le temple par deux fois. En plus, les paroles qu'il dit la deuxième fois sont assez différentes. Il vient dans le temple et il est outré, scandalisé par ce qu'il voit. Et il vire les marchands, il vire les changeurs. Les changeurs étaient là parce que les pèlerins venaient de partout et ils devaient changer et acheter dans la monnaie du temple. Et donc, voilà, ils sont là. Très probablement, il y avait des scandales, très probablement, il y avait des abus. Imaginez un pèlerin qui fait des milliers de kilomètres pour acheter un mouton, qu'on le vende à 10 euros, qu'on le vende à 30 euros, il va quand même l'acheter. Hein. Et donc, là, ils sont en train de faire leur chiffre de l'année en quelques jours. Et Jésus, il casse ça. Jésus, la présence de Jésus est un problème pour les marchands. Et alors, on voit ici que Jésus est zélé. Vous voyez, les disciples, après coup, ils se souvinrent qu'il est écrit dans un texte de l'Ancien Testament, « Le zèle de ta maison me dévore. » Le zèle, c'est une énergie, un enthousiasme. Jésus est zélé pour Dieu. Il est zélé pour la maison de Dieu. Et c'est un contraste énorme avec les marchands du temple. Eux, ils sont zélés par quoi, à votre avis?
Le profit.
Profit, flouze, chiffre d'affaires, rentabilité, thunes, laitu. Eux, ils sont là pour se faire beaucoup d'argent et vite. Et Jésus ne craint pas les conséquences, il ne craint pas leur réaction, il ne craint pas d'ailleurs ce que ça va déclencher, on va voir ça, il est zélé. Deuxième groupe qui a des problèmes avec la présence de Jésus dans le temple, ce sont les autorités juives. On les voit au verset 18. Jean, souvent, quand il parle des autorités juives, il fait ça de façon très, très englobante, les juifs. Les juifs prirent la parole et lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Autrement dit, montre-nous tes papiers. T'es vraiment un prophète qui a une autorité comme ça? Qu'est-ce que tu as comme miracle dans ta poche pour prouver qui tu es? Et eux, ils sont déjà mal placés, hein, parce que c'est eux qui régulent le culte du temple, et ils n'ont pas empêché Jésus. Donc techniquement, ils sont plutôt soit OK que Jésus le fasse, soit on voit qu'ils ne sont pas très puissants. En tout cas, il y a vraiment une surprise énorme. Même si c'est la centième fois que tu lis le texte, pourquoi Jésus a réussi à vider le temple? Je veux dire, si moi je devais aller dans une mosquée enlever des trucs, croyez-moi, je serais mal. Envoyez-moi à Fourvière et j'enlève toutes les statues de Marie en bas ou qui sont adorées, tout ça, je suis mal. Jésus vide le temple de tout le trafic, de tout le commerce. Et les autorités n'ont rien dit. Les autorités n'ont rien fait. Et ici, on a de nouveau les autorités qui sont clairement gênées. Hein, sont clairement gênées. Mais Jésus leur répond quelque chose de surprenant. Il dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Et c'est la première fois d'un thème qui arrive dans Jean. Très, très souvent, Jésus va dire un truc et les gens vont complètement passer à côté du sens des paroles de Jésus. Et ici, c'est le premier exemple qu'on a. « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. » Et d'ailleurs, les historiens nous disent que le temple n'était toujours pas fini à l'époque où ils étaient en train de parler. Ça a pris encore 30 ans pour le terminer. Et tu le relèverais en 3 jours. Ça, t'es malade. N'importe quoi. Mais le verset 21 nous précise « Mais il parlait du temple de son corps. » Donc, les marchands ont un problème, les autorités ont un problème avec Jésus. Jésus gêne. Le zèle de Jésus pour Dieu gêne. Et nous, on peut se dire de loin, ouais, c'est bien, il leur montre à ses radins dans le temple, il le montre à ses religieux, il montre qui est le chef. Mais on réalise aussi, si on commence à réfléchir un peu à ce qui se passe, c'est que la présence de Jésus, même si Jésus est joyeux, la présence de Jésus nous pose aussi un problème. Si Jésus devait être ici, ce matin, et il devait parler de ce qu'il voit dans mon cœur, dans ton cœur, quels seraient les marchands qui y sont? Quels sont, si on veut utiliser un autre mot, le mot que Jean-Luc a déjà utilisé ce matin, quels sont les idoles qui sont dans mon cœur? Jésus est zélé, que Dieu soit adoré, et le trafic dans le temple, au minimum, empêché que les gens viennent adorer. Il y a d'autres raisons qui sont données dans les autres évangiles, mais ici on voit que c'est le zèle pour la maison de son Père qui le pousse à agir. C'est ça qui est souligné, Jean veut souligner. Jésus, c'est le fils, l'héritier. Il rentre dans la maison de son Père, outré par ce qu'il voit, et il nettoie la maison de son Père. Pour que son Père puisse être rencontré, pour que les gens puissent venir connaître Dieu. Et qu'est-ce qui est dans mon cœur, qu'est-ce qui est dans ton cœur qui empêche cette connaissance de Dieu actuellement? Est-ce que nous ne sommes pas aussi gênés par la présence de Jésus? Est-ce qu'il n'y a pas en nous, chrétiens ou pas, quelque chose qui nous attire à Jésus et quelque chose qui nous repousse chez Jésus? On est attiré par la personne de Jésus, c'est normal! C'est notre Créateur. Et en même temps, combien on est en train de très souvent créer Jésus à notre image pour éviter les aspects dérangeants chez Jésus. Je connais plein de voisins comme ça. Ils vont me dire, oui, Jésus, c'est quelqu'un de bien. Mais ils vont être dérangés si tout d'un coup, Jésus leur dit, tu dois virer ça dans ta vie pour que toute la place revienne à Dieu. Et je ne sais pas comment tu réagis quand on dit que la présence de Jésus te gêne aussi, nous gêne aussi, mais vraiment, peut-être que tu ne crois pas en Jésus, tu es là pour la première fois et tu ne sais pas du tout quoi penser de Jésus, mais je peux te confirmer ça, tout le monde adore, et si tu ne veux pas écouter un chrétien qui le dit, je vais te lire les paroles d'un athée, il s'appelle David Foster Wallace, c'est un romancier, et 3 ans et demi avant son suicide, a prononcé ces paroles lors d'un discours de remise de diplôme à Kenyon College en 2005. Je vous lis son discours, des extraits de son discours. Tout le monde adore. On peut seulement choisir ce qu'on va adorer. Et une excellente raison de choisir d'adorer une sorte de Dieu ou de chose de type spirituel est que pratiquement tout ce que vous pourrez adorer d'autre vous dévorera vivant. Vous avez entendu, hein? Quasiment toute autre chose que vous adorez va vous dévorer vivant. Si vous adorez l'argent et les objets, si c'est là que vous puisez le sens de la vie, vous n'en aurez jamais assez. Vous n'aurez jamais le sentiment d'en avoir assez. Adorez votre corps, votre beauté, votre sexe et pile, et vous vous sentirez toujours moche. Et quand le temps et l'âge pointeront le bout de leur nez, vous souffrirez 1 million de morts avant qu'ils ne finissent par vous enterrer. Adorez le pouvoir et vous vous sentirez faible, vous aurez peur. Vous aurez besoin d'accroître votre pouvoir sur les autres pour éloigner la peur. Adorez votre intellect, l'impression d'intelligence que vous donnez, et vous finirez par vous sentir idiot, des imposteurs toujours à 2 doigts d'être découverts. Vous savez ce qu'il y a d'insidieux dans ces formes d'adoration, c'est qu'ils sont inconscientes. Ce sont des configurations par défaut de notre cœur. Donc ici, on a un romancier athée qui dit aussi ce que ce texte dit. La question, ce n'est pas « est-ce que tu adores ou pas ?» La question, c'est « qu'est-ce que tu adores ?» Nous avons tous quelque chose qui occupe la première position dans notre vie, dans notre cœur, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on désire, dans ce qu'on recherche. Qu'on soit chrétien ou pas. Donc la question, c'est pas « est-ce que tu adores ?» c'est « qu'est-ce que tu adores ?» Et ici, on voit que la présence de Jésus dérange des adorateurs qui adorent autre chose que Dieu. Et donc, c'est évident que la présence de Jésus, même si on la veut, elle nous dérangerait aussi. Parce qu'on est constamment en train d'adorer autre chose. Ça peut être ce qu'il mentionne, l'argent, les objets, le corps, la beauté, soi-même, le pouvoir, l'intellect. Ça peut être le plaisir sur toutes ses formes. Les Français, on est les rois pour adorer le plaisir. Et si on s'arrêtait là, la solution, ce serait juste fait plus d'efforts pour adorer Dieu. Mais ce n'est pas ça la solution que Jésus donne. Et la solution que Jésus donne, elle est incroyable. Et elle est pleine d'ironie, déjà dans le verset 19, 20 et 21. Jésus leur répondit à ses responsables juifs, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Donc, le zèle de Jésus pour la maison de son père va causer sa mort. On voit ça, on n'a pas le temps de le regarder de près, mais quand les disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore », c'est une citation du psaume 69. Donc c'est une citation du psaume 69, et on voit que Jésus, que le roi David, un ancien roi d'Israël, écrit ce psaume en racontant que parce qu'il aime Dieu, les autres le rejettent. Parce qu'il a un zèle pour Dieu, il se fait moquer par ceux qui se moquent de Dieu. Et si ça a été vrai pour David, c'est vrai de façon ultime pour Jésus. Parce que Jésus aimait Dieu le Père par-dessus tout, il a été rejeté par les autorités juives. Il a été rejeté par le peuple. Et c'est pour ça que les disciples se souvinrent de ce passage. Le zèle de Jésus va le pousser à être mis à mort. Et c'est de ça que Jésus parle, puisque Jean dit, il ne parlait pas du temple, il parlait de son propre corps, qui serait tué, détruit, et qui relèverait 3 jours plus tard. Donc son zèle attire la haine des autorités, c'est un rival, mais l'ironie ici, c'est que qui va détruire le temple de son corps? C'est les Juifs. Et en tuant Jésus à la croix, si vous ne connaissez pas encore la suite de Jean, prenez un évangile et lisez-le ce soir. À sa mort, Jésus va payer pour les péchés. À sa résurrection, Jésus va rendre le temple caduc. Si vous voulez, on parle beaucoup de l'obsolescence programmée contre les imprimantes et des trucs comme ça, hein, où la machine doit casser au bout de certains nombres de tours d'utilisation pour une machine à laver ou pour une imprimante. Le temple de Jérusalem était dans un programme d'obsolescence programmée. Et la pièce allait casser le jour où Jésus ressusciterait. Et l'ironie ici, c'est que c'est les Juifs, c'est les autorités juives qui ont crucifié Jésus. Et c'est eux qui ont détruit le temple en détruisant Jésus. Plus besoin de temple dans l'adoration juive. Plus besoin de temple pour rentrer dans la présence de Dieu. Plus besoin de temple pour connaître Dieu. Jésus nous donne cet accès. Et c'est ça qu'il est en train de déjà annoncer, même si ça va venir dans des chapitres plus loin. Déjà maintenant, le signe que Jésus a toute autorité pour nettoyer le temple de son Père, c'est le signe de sa résurrection, parce qu'il devient le temple. Il a le droit de nettoyer le temple. Il est le temple. Il a le droit de nous aider à avoir l'accès à son Père, parce qu'il est l'accès à son Père. Donc la solution, c'est pas essayer plus fort. La solution, c'est pas d'essayer d'identifier les idoles et de les tuer, de les casser. La solution, c'est de réaliser que la bonne nouvelle, c'est que le zèle de Jésus contre le péché, le zèle de Jésus pour la gloire de son Père, c'est la garantie de notre salut. C'est la garantie qu'il nous aime. C'est la garantie qu'on peut être pardonné. Nous, on verrait ça comme des contradictions. Si Jésus aime Dieu plus qu'il nous aime nous, il y a une rivalité. C'est pas possible. Nous, quand on est amoureux, on veut que l'autre nous aime nous par-dessus toute chose, toute personne. Le texte ici nous montre que Jésus est zélé pour Dieu par-dessus. Et c'est cet amour pour Dieu qui se manifeste aussi dans un amour pour nous, en mourant à la croix, pour qu'on puisse avoir accès à Dieu à nouveau. Et donc la solution à ton amour, à mon amour de l'argent, à mon amour, ton amour de soi, notre orgueil, d'ailleurs notre orgueil se présente en plein de formes, et au moins deux, hein, il y a l'orgueil du fort qui écrase les autres, il y a l'orgueil du faible qui a une mauvaise estime de lui-même, mais il est aussi toujours en train de tourner autour de lui-même. Hein. L'orgueil du fort, l'orgueil du faible, tout ça, comment ça meurt? Comment c'est réglé? C'est pas réglé en... Parfois, très souvent, et là, écoutez-moi bien s'il vous plaît, très très souvent, on a des personnes qui viennent et qui croient qu'être chrétien, c'est faire plus d'efforts. Être chrétien, c'est essayer de vivre comme Dieu veut qu'on vive. Et être chrétien, c'est pas ça. Être chrétien, c'est réaliser que Jésus était tellement zélé pour nous donner l'accès au Père qu'il est mort pour nos péchés. Il est mort pour mon idolâtrie. Il est mort pour ton idolâtrie. Il est mort pour ton orgueil. Il est mort pour ton idole de l'argent, du plaisir, de la carrière, de la famille, de l'amour déplacé que tu as pour ton mari ou ton copain ou ta copine. Jésus est mort. Et le christianisme, c'est regarder à Jésus et croire qu'il est mort pour toi. Et on va le voir de plus en plus clairement dans les semaines à venir. On voit ici qu'au verset 23, la croyance est progressive. Les gens ne croient pas tous. Les disciples croient. Une fois que Jésus ressuscite, par contre, ça devient très très clair et ils commencent à croire. Donc, sur place, certains commencent à se poser des questions en voyant ce que Jésus fait. Mais ultimement, c'est à la résurrection de Jésus que les gens sont capables de comprendre l'ensemble de la vie. Il a nettoyé le temple parce qu'il est le temple. Il l'a vidé pour qu'il puisse être premier. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est dans ta vie. Moi, je sais souvent ce qui est dans la mienne. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on peut adorer Jésus de tout notre cœur ce matin? En sachant qu'il n'y a pas d'idole. Il n'y a que Jésus qui est en premier. Parce qu'il est le temple, il est l'accès à Dieu. C'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Trump a annoncé que Jérusalem était la capitale d'Israël la semaine dernière. Bah, entre nous, on s'en fiche complètement. Jérusalem n'est plus important. Jésus est le centre, le cœur de la religion chrétienne. Et de la religion juive aussi d'ailleurs. Jésus est le centre. Celui qui a Jésus a tout ce qu'il lui faut. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de chrétiens apparemment qui se réjouissent que Trump voit Jérusalem comme la capitale. Franchement, un texte comme ça nous rappelle que non, tout ce qui compte, c'est que Jésus est ce temple. Jésus nous donne l'accès à Dieu. Alors, je ne sais pas, on a toujours plein de monde d'arrière-plans très différents et nos cheminements sont tous uniques, mais peux-tu dire de tout ton cœur, oui, Jésus est au centre de mon cœur. Jésus est le seul qui a une place dans la cour du temple de mon cœur. Je l'aime parce qu'il est mort pour moi. Je l'aime parce qu'il est mon sauveur. Je l'aime parce qu'il est Dieu devenu homme. Est-ce que je peux dire ça? Et si ce n'est pas le cas, la solution, ce n'est pas « Ah, je dois essayer de me débarrasser de ces idoles ». Non, je dois réaliser qu'il est mort pour mes idoles. Il a été tué pour mon péché. Regarde à Jésus. Lis le reste de l'évangile de Jean. Regarde ce que ça a coûté. Notre ego démesuré a crucifié Jésus. Notre soif du confort à tout prix a tué Jésus. Toutes nos idoles ont tué Jésus. Et c'est ça qui nous donne l'espoir. C'est ça qui nous donne la preuve irréfutable qu'on peut être pardonné, qu'on est pardonné si on croit en lui. Alors je vous invite, ce texte nous invite à adorer celui ici que l'évangile présente, celui dont le zèle pour Dieu nous garantit le bonheur. Donc Jésus est celui vraiment où on voit qui apporte la joie dans le texte précédent de Jean. Et on veut cette joie. Mais si tu veux cette joie, tu dois aussi accepter le côté inconfortable de sa présence. Il sera constamment en train de reprendre la première place dans ma vie, dans ta vie, si tu es son disciple. C'est impossible qu'il te laisse le mettre à la deuxième place ou à la troisième place. Et pourquoi? Parce qu'il veut ton bonheur. Il veut ton bonheur. Et donc, c'est là la clé. Combien d'entre nous voyons Jésus comme un maître parmi d'autres? Combien voyons-nous Dieu comme le père fouettard, on en parlait? Qui veut juste nous forcer à faire des choses? Non, Jésus, il vient, il apporte ce vin du bonheur, il veut une nouvelle relation avec nous, et il veut notre bonheur ultime. Et donc, quand il voit un peuple qui se donne à l'idolâtrie, quand il voit un peuple qui empêche les gens de venir adorer Dieu, il se met en colère parce qu'il aime Dieu, et il se met en colère parce qu'il aime son peuple. Quand il voit l'idole dans mon cœur, quand il voit une idole dans ton cœur, il se met en colère parce qu'il t'aime. Il est mort à la croix parce qu'il t'aime. J'espère que ça vous semble être une bonne nouvelle comme ça l'est. Si c'est votre première fois ce matin, je peux imaginer qu'il y ait pas mal de questions, même si c'est peut-être votre dixième fois, hein, mais qu'on en parle. Mais je vous invite à ne pas attendre. Que tu sois chrétien ou pas, que tu te penses chrétien ou pas, tu peux commencer encore aujourd'hui à regarder à la croix de Jésus. On va chanter encore un dernier chant. Je te suivrai, on va le rechanter. Et toute notre vie est une réponse. Jamais un moyen de salut. Toute notre vie est une réponse à ce signe ultime de la croix et de la résurrection de Jésus. Toute notre vie est une réponse à ça. Et peut-être en parenthèse, mais parenthèse de la fin, j'en ai jamais fait, beaucoup de personnes demandent des signes. J'ai encore récemment repris contact avec quelqu'un qui semblait s'intéresser à Jésus et qui, en fait, s'intéressait plus au miracle de Jésus qu'à la personne de Jésus. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de demander à Jésus comme preuve qu'il est vraiment qui il dit être. Mais dans ce texte, est-ce que ce n'est pas une preuve qu'il ait débarrassé le temple et qu'on ne lui ait rien dit? Est-ce que ce n'est pas une preuve qu'il ait pu prophétiser sa mort et sa résurrection en 3 jours? Peut-être, ouais. Mais ton cœur pourra toujours trouver des façons d'expliquer tel événement. Mais s'il y a un événement qui va vraiment te poser problème, c'est la résurrection. Et c'est, il me semble, Jésus qui le met comme argument ultime. Vous voulez un signe? Vous n'en aurez pas d'autre à part ma résurrection. Il le dit ailleurs dans les évangiles. Vous n'aurez pas d'autre signe. Il en donne plein, en fait. Mais on peut toujours expliquer par un autre moyen les miracles que Jésus fait dans notre vie. Mais la résurrection, c'est le point qui va te séparer du disciple de Jésus, de l'incroyant. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication à la résurrection de Jésus que le fait qu'il est vivant. Toutes les autres théories, quand tu commences à creuser, ne tiennent pas la route. Et ça va être un choix intentionnel de ta part de quand même rejeter la résurrection à cause des implications, à cause du fait que tu ne veux pas laisser Jésus être premier dans ta vie. Ce ne sera pas pour des raisons rationnelles que tu vas rejeter la résurrection quand tu commences à creuser le sujet. Et si ça te semble aller trop loin, parlons-en. Mais la résurrection est un des points sur lequel le chrétien revient constamment dans les moments de doute. Jésus est ressuscité, donc tout le reste est vrai. Jésus est ressuscité, donc tout le reste est vrai. Donc je propose qu'on chante, qu'on puisse vraiment, comme le texte nous invite à le faire, hein, adorer celui qui est si zélé pour Dieu qu'on peut avoir confiance qu'il nous aime, qu'on peut avoir confiance qu'il nous pardonne. Et on peut se lever.
Merci Stéphane.